Audiolib présente La ferme du bout du monde de Sarah Vaughan, lu par Julie Pouillon. À Bobby, affectueusement. Elle s'occuperait des travaux de la ferme, se lèverait de bonne heure, un antidote au chagrin. Elle appartenait au sol, attachée à la terre comme ses ancêtres. Daphné du Maurier, la crique du français. Sur le chemin long et éprouvant, faut-il de l'alouette mépriser le champ? Anne Brontë, poème de Cureur, Ellis et Acton Bell. Prologue. La ferme tourne le dos à l'océan et au vent violent qui en monte par bourrasque. Une longue bâtisse de granit tapie sur sa falaise. Depuis plus de 300 ans, elle est là, surveillant les champs d'orge et les troupeaux de vaches herscheurs qui paissent lentement, déplacent avec langueur leur masse d'un brun roux tranchant sur le vert luxuriant. Elle monte la garde, cette ferme, aussi immuable que les rochers, bien plus que les dunes mouvantes. Elle regarde la haie débordant sur la route et prenant au piège les rares automobilistes, car peu s'aventurent jusqu'à ce lieu qui surplombe de très haut la mer. Les détails changent avec les saisons, l'aubépine qui fleurit puis se dépouille, le ciel meurtri par la pluie qui s'illumine ensuite, la récolte rassemblée en meules hirsutes qui seront entreposées dans la grange. La vue, elle, reste la même. Un ruban de route, s'éloignant de cette portion isolée de la côte, montant vers la tapisserie de champs pour rejoindre le cœur de la Cornouaille et le reste de la Grande-Bretagne. Et au-delà, toujours, la lande domine la région, tout en tourbe menaçante, ocre et grise. Au soleil, ce décor paraît idyllique. C'est une ferme qu'un enfant pourrait dessiner. Un toit d'ardoise, un porche blanchi à la chaux, des fenêtres disposées avec une rigueur presque mathématique. Une de chaque côté de la porte et une troisième ajoutée au XVIIIe siècle, lors de l'agrandissement de la maison. Les proportions sont bonnes. Une construction sûre d'elle, bâtie pour résister au vent qui incline les arbres à angle droit, qui fouette les carreaux à coups de grosses gerbes de pluie, pour supporter hiver sur hiver. Deux cheminées la coiffent, et d'octobre à mai, l'odeur âcre du feu de bois se mêle aux relents puissants de la cour et aux parfums plus délicats de la côte. La puanteur fruitée du fourrage, l'odeur mielée des ajoncs et celle salée de l'eau, herbe humide et bouse de vache, camomille et vesse pour le bétail. Les jours de beau temps, les murs de granit de la maison, des granges et des dépendances brillent d'une douce lueur chaleureuse. La pierre scintillante ressort sur le bleu de l'eau. Des marcheurs, à la recherche d'un salon de thé, se délectent du spectacle qu'offre le jardin à l'arrière. Les champs de céréales touffues, les vaches au ventre bien rond, les surfeurs chevauchant des moutons dans la baie. Puis ils entendent le chant, une mélodie sublime, si constante et si irrépressible qu'elle a donné au lieu son surnom. Ce n'est plus Paul Blaisy, mais Skylark Farm, la ferme de l'alouette. Pourtant, dès que les alouettes cessent de chanter et que le ciel vire au gris, le granit se ternit, devient charbon. Le lieu est alors moins accueillant, austère, sinon lugubre. Sous cet éclairage, il apparaît que les cadres des fenêtres et de la porte ont besoin d'un coup de peinture, que le jardin, avec son herbe rase et bordé de massifs broussailleux de lavande et d'arméria, n'est pas entretenu. Un pommier sauvage rabougri ploie au-dessus d'un banc pourrissant, et un tamaris dépouillé de ses feuilles par un vent malveillant est tourné vers l'intérieur des terres. Skylark, aux mains de la même famille depuis 6 générations, imprégné de son histoire et de ses secrets, endosse